téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Il est 9h41, l'instant M, c'est reparti jusqu'à vendredi.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Les journalistes politiques de Washington expriment leur ras-le-bol de cette campagne présidentielle désastreuse. Depuis hier, ils cessent de parler politique et postent sur les réseaux, vous savez quoi, des photos de chiens. Remontons ensemble le fil ce matin, remontons à avant, l'avalanche des scandales. Donald Trump a-t-il fait bouger les lignes éditoriales des grands médias américains? Ceux-ci ont-ils été entendus? Bonjour Jean Le Sieur.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien directeur de la rédaction de France 24 et vous partagez votre temps entre la France et les États-Unis. Mais avant de traverser l'Atlantique, je vous propose d'entendre Dominique Pradalier, secrétaire général du Syndicat national des journalistes. Un mot a envahi l'actu des médias depuis hier, la clause de conscience. Savez-vous ce qu'elle est? Savez-vous ce qu'elle signifie?
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Le zapping sur France 2, eh bien c'est une info de l'Obs, le programme court de Canal qui a mené une guérilla interne contre les choix de sa nouvelle direction, a été retiré de l'antenne en septembre et son équipe licenciée. Patrick Menet, son maître d'œuvre depuis 1989, arriverait donc sur la chaîne publique. Cette semaine, iTélé, chaîne info du groupe Canal, annonce l'arrivée de Jean-Marc Morandini en quotidienne de 18 à 19h. La mise en examen de l'animateur pour corruption de mineurs aggravée soulève l'indignation des journalistes d'iTélé. Ceux-ci lui demandent officiellement, publiquement, de ne pas venir à l'antenne. Tous ceux qui exercent un métier public se doivent de respecter une forme d'exemplarité, plaide-t-il. Le public ne comprendrait pas que les journalistes s'en exonère. Réponse en deux temps de la direction de Canal+. La présomption d'innocence est un droit fondamental, respectons-la, primo. Secondo, je cite, nous vous laissons la possibilité d'exercer le droit de rupture de votre contrat au titre de la clause de conscience et ce jusqu'au 21 octobre. Sur Twitter, le hashtag « Je soutiens iTélé » s'est répandu tout le week-end. Les salariés de la chaîne sont en ce moment même réunis en Assemblée Générale. Ils votent une grève. Ils viennent là, à l'instant, d'apprendre le départ d'Alexandre Ifri, directeur adjoint de la rédaction. Et par ailleurs, ils appellent à une manifestation silencieuse devant les locaux de Canal+, ce soir à 18h, heure à laquelle est supposée démarrer l'émission de Jean-Marc Morandini. Au téléphone, la secrétaire nationale du SNJ, le syndicat national des journalistes. Bonjour Dominique Pradalier.
Bonjour, bonjour à vous.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clause de conscience ?
La clause de conscience, juridiquement et légalement parlant, c'est celle qui permet aux journalistes de quitter à l'instant une entreprise quand ils pensent que sa conscience est mise en cause par les agissements de son employeur ou de la direction de l'entreprise. Maintenant, il faut pour ce faire qu'il y ait un changement de la ligne éditoriale de l'entreprise en question.
Alors, Dominique Pradalier, on a vu dans l'histoire de la presse, très régulièrement, des journalistes actionner leur clause de conscience. Est-ce qu'on a déjà vu une direction s'adresser aux salariés d'une entreprise de presse et leur dire « nous vous ouvrons la clause de conscience » ?
Eh bien, nous considérons, et les journalistes de iTélé aussi, que c'est une provocation assez méprisante et un non-sens juridique. Ce n'est pas au directeur de dire aux journalistes « prenez votre conscience ». C'est à chaque journaliste de voir si sa conscience est ou non mise en cause. C'est très choquant d'entendre ce genre de proposition. C'est comme si un employeur leur disait « vous avez une conscience, eh bien dégagez avec ». C'est à la fois brutal et c'est à la fois dangereux et grave pour les téléspectateurs.
Alors, dans la lettre qui est adressée aux salariés d'iTélé, Jean-Christophe Thiry, qui est l'un des patrons du groupe Canal, leur donc formule, noir sur blanc, la proposition de prendre cette clause de conscience, mais une proposition qui ne vaut que pour quelques jours. C'est-à-dire, nous vous ouvrons la clause de conscience, 4 jours après, nous la refermons. Est-ce que ça, c'est valide juridiquement, Dominique Pradalier ?
ce type de menée n'a aucune valeur juridique. La conscience est celle du journaliste, ce n'est pas celle de l'employeur. La conscience ne s'ouvre pas et ne se ferme pas comme une boîte à musique. Maintenant, le SNJ soutient totalement cette lutte des journalistes de iTélé. Elle est exemplaire. Pourquoi ? Parce que la crédibilité d'une rédaction est quelque chose de très fragile. Elle s'assied sur le pacte de confiance des journalistes et des publics.
Mais pour que nous soyons clairs et précis, est-ce qu'un journaliste qui, le jour de l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur l'antenne d'iTélé, actionne sa clause de conscience en disant « je ne me reconnais plus dans ma chaîne et je souhaite pouvoir en partir avec les conditions que propose la clause de conscience », est-ce qu'il pourra le faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, c'est-à-dire tant que Jean-Marc Morandini est à l'antenne d'iTélé, ou est-ce que, en effet, au bout de 4 jours, c'est fini, c'est terminé?
Le journaliste peut estimer que sa conscience est atteinte à tout instant. Ça ne veut pas dire que quand il est parti, la rédaction s'en trouve améliorée, évidemment. Dans cette histoire, je pense que la direction de iTélé se comporte mal aux yeux de tous. Je rappelle que les précédents employeurs de Jean-Marc Morandini ont décidé qu'il ne paraîtrait pas à l'antenne. Et cette direction veut en faire une star.
Est-ce que, d'une certaine manière, la direction du groupe Canal+, qui est donc la maison mère d'iTélé, en proposant d'ouvrir une clause de conscience aux salariés liée à l'arrivée de Jean-Marc Morandini, acte noir sur blanc le fait que iTélé change désormais cette semaine de ligne éditoriale?
Je pense que oui, et au-delà, elle acte devant tous les publics le fait que les journalistes ont une conscience, les directions beaucoup moins. Je rappelle que l'idéal qui est faisable serait qu'il y ait une reconnaissance juridique de chaque équipe rédactionnelle dans chaque entreprise de presse pour qu'elle puisse collectivement et juridiquement s'opposer à de tels faits.
Et ça n'existe pas pour l'instant ?
Ça n'existe pas encore. Pourtant, il y a eu plusieurs propositions de loi déposées à cet effet.
C'est-à-dire que vous militez en fait pour une reconnaissance d'une conscience collective, finalement, d'une rédaction, et pas un acte individuel qui oblige le salarié, finalement, à porter sa démission devant ses patrons ?
Alors, ce n'est pas du tout une démission. La clause de conscience n'est pas une démission du tout. C'est une rupture de contrat pour une cause supérieure.
Quand vous dites que ça n'est pas une démission, ça veut dire que le salarié, derrière, a le droit à des indemnités, a le droit au chômage ?
Cela veut dire que le salarié obtient une rupture de contrat de travail pour une raison supérieure, qui est sa conscience, cette rupture entraînant tous les effets d'un licenciement.
C'est ça, donc chômage et indemnité.
Indemnité, licenciement, oui.
Qu'est-ce que ça changerait, le droit de recours collectif à la clause de conscience ?
Mais je pense que ça interdirait la mise à l'antenne d'une personne qui est mise en examen. On ne demande pas la mort des salariés, quels qu'ils soient, on demande qu'ils ne soient pas mis à l'antenne tant que la mise en examen n'est pas levée. On demande simplement, comme dans d'autres cas, que les journalistes prennent conscience que leur métier apporte parfois des sacrifices à faire. Le sacrifice pour Jean-Marc Morandini serait de ne pas apparaître à l'antenne. C'est pas bien grave par rapport à la crédibilité de toute une rédaction et de toute une entreprise.
Voilà, c'était Dominique Pradalier du SNJ, dossier à suivre, bien entendu.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Alors, 3 questions avec notre invité du jour, Jean Le Sieur. Vous êtes donc, je le disais, l'ancien directeur de la rédaction de France 24. Vous vivez un pied en France, un autre aux États-Unis, les yeux rivés sur le New York Times et autres grands médias américains. Nous avions envie, avec vous, de remonter le fil médiatique de cette campagne à avant cette avalanche de scandales pour voir comment les lignes ont bougé autour du personnage de Donald Trump, autour de son irruption médiatique et politique. On va peut-être commencer par la télévision, parce que chaque élection, c'est le choc des titans de l'info. CNN d'un côté, Fox News, la très droitière chaîne info propriétaire du mania Rupert Murdoch. Il s'y est passé quelque chose d'incroyable, il y a quelques semaines, assez inaperçu en France parce que c'est un personnage mal connu du public français, Roger Hale, qui est le patron emblématique de Fox News, obligé de quitter sa chaîne pour scandale sexuel. On écoute Donald Trump parler de son ami Roger Hale.
Roger Ailes. Is he advising you?
Well, I don't want to comment, but he's been a friend of mine for a long time, and I can tell you that some of the women that are complaining I know how much he's helped them, and even recently, I've always found him to be just a very, very good person. And by the way, a very, very talented person. Look what he's done. So I feel very badly. But a lot of people think he's going to run my campaign.
Yeah.
Voilà, le journaliste demande à Donald Trump si Roger Hale le conseille, et Donald Trump lui répond qu'il ne veut pas commenter, que c'est un ami de très longue date, que certaines femmes se plaignent, d'accord, mais que Donald Trump sait à quel point Roger Hale les a aidées, ces femmes, qui aujourd'hui se plaignent pour agression et harcèlement sexuel, que c'est un type vraiment très bien, quelqu'un de très talentueux, qu'il est très triste pour lui et qu'il va rejoindre sa campagne. On est quand même effaré par le télescopage, Jean Le Sieur, entre l'histoire de Donald Trump et l'histoire du patron de la Fox.
Bah oui, c'est un télescopage qui en effet est emblématique de ce qu'est Donald Trump. Mais Roger Ailes est depuis mes 40 ans, 45 ans même, un des personnages majeurs des médias conservateurs américains, des médias et de la politique, car il a aussi conseillé des hommes politiques et même Richard Nixon, je crois. Et alors l'histoire de Fox est en effet très comparable à celle de Donald Trump. Je parle là de harcèlement sexuel, puisque ça a commencé par une plainte d'une femme, d'une grande journaliste qui s'appelle... Enfin, d'une grande journaliste, c'est une ancienne Miss America.
Mm-hmm. Pas d'une journaliste réputée, on va dire.
Gretchen Carlson, qui a ses plaintes d'assaut, de harcèlement et d'agression sexuelle de la part de son patron, Roger Ailes, qui évidemment a démenti. Mais comme souvent dans ces affaires, il suffit d'une personne qui ose affronter le grand patron et dire la vérité. Et Gretchen Carlson a réussi à attirer l'attention des médias, de la justice. L'affaire s'est réglée au mieux pour elle, puisque je crois qu'elle a touché 22 millions de dollars de la part de Fox. Alors, je ne sais pas si c'est Fox qui paye ou Roger Ailes.
C'est ce parallèle incroyable entre le candidat et son porte-voix médiatique, à qui il arrive exactement la même histoire en même temps.
Et Roger Ailes est parti directement, même si Trump ne l'a pas osé, est parti directement dans le conseil des conseillers de Donald Trump. Et après Gretchen Carlson, tout un tas d'autres femmes de Fox News ont révélé qu'elles avaient été également victimes de cette culture, qui est en fait une culture, on peut parler de culture de comportement chez un certain nombre de vieux cochons, barbons américains. Et Trump et Ailes, en effet, sont deux personnages extraordinairement parallèles,
alors,
aussi grossiers l'un que l'autre. Et quand Trump dit « mon ami Roger Ailes », etc., c'est parce qu'il sait déjà, quand il en parle, que lui-même a des choses, on parlait de conscience tout à l'heure, la conscience de M. Ailes et de M. Trump en ce qui concerne leur comportement vis-à-vis des femmes doit être assez lourde à porter, en effet.
Alors, là, on assiste à une avalanche de révélations, une sorte de surenchère très, très spectaculaire. En réalité, des révélations sur Donald Trump, il y en a depuis le début de la campagne, qui sont à portée de tout citoyen qui lit les journaux ou qui regarde la télé ou qui s'informe, disons. Est-ce que dans l'histoire des États-Unis, on a déjà vu un candidat résister à autant de révélations médiatiques?
Alors, d'abord, des révélations sur Donald Trump, il y en a depuis le début de sa carrière publique. Et en ce qui concerne les assauts, les attaques sexuelles, sa propre femme, sa première femme, Ivana Trump, en 1989 ou 90, dans la procédure de divorce, parle d'un moment où son mari l'a violée. D'ailleurs, je me souviens à l'époque à New York, il y avait eu tout un débat sur le viol conjugal, existe-t-il,
mais
etc.
Justement, alors, autre temps, autre mœurs, Jean Le Sieur, on n'aurait même pas pu se présenter aux primaires avec une affaire comme ça dans...
Écoutez, c'est difficile de répondre aussi nettement à la question, parce qu'après tout, Bill Clinton, dans les primaires de 1992, est embarrassé par les révélations de Paula Jones, et vous vous souvenez peut-être de cette interview commune de Bill et Hillary au moment de la primaire du New Hampshire, donc en janvier ou février 1992. Alors, ils arrivent à s'en sortir parce que ils étaient très bons, et puis Bill, il tient mieux la route que Donald Trump pour ce qui est de sa profession d'homme politique, donc il a pu s'en sortir. Mais c'est vrai que si on regarde l'histoire des campagnes électorales américaines, enfin, souvenons-nous de Gary Hart je ne sais même plus quand c'était.
En 88,
Gary Hart, qui doit se retirer de la course parce que on dit qu'il a trompé sa femme une fois. Bon, bah oui.
Et c'était le Miami Herald qui était à la manœuvre à ce moment-là.
Absolument. Et donc, on lui a pas laissé de seconde chance. Dans un autre genre, le pauvre Thomas Eagleton, qui était le colistier de George McGovern en 1968, donc avant même Gary Hart, lui, il a dû abandonner la campagne parce que on a révélé qu'il avait dû prendre quelques antidépresseurs et il est donc resté colistier pendant très exactement 2 semaines après la convention des démocrates. Alors on se souvient de Ted Kennedy, etc.
Est-ce que la multiplication des sources d'informations finalement n'en diminue pas un petit peu l'impact ?
Oui, en même temps, c'est une manière un peu, pardonnez-moi, mais un peu paresseuse de regarder les choses, mais je me rends aussi coupable de la même chose. Vous savez, Trump, depuis que c'est une personnalité médiatique, et c'est une personnalité médiatique qui a organisé son propre show depuis bien avant qu'il ne démarre la campagne électorale, le nombre de révélations qu'il y a eu, qui ont été mises à la disposition du citoyen consommateur d'informations, du journaliste, des médias en général. Tiens, tout cela était relativement disponible. Même son comportement vis-à-vis des femmes. Le New York Times a fait au printemps une double page entière sur la manière dont Trump se comportait avec les femmes. Alors, il n'y avait pas de révélation sur le type d'assaut dont apparemment il a été coupable pas plus récemment d'ailleurs, parce que ça semble être une constante dans sa vie. Mais alors oui, c'est un paradoxe que plus il y a des chaînes d'information, plus il y a des journaux qui racontent des choses, plus il y a de livres. Le nombre de livres écrits sur Donald Trump, avec le dernier qui s'appelle Trump Reveal.
Et plus finalement la masse critique a dû être d'informations négatives et de révélations, dû atteindre un seuil très 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 élevé pour finalement se retourner contre le candidat.
Oui, mais se retourner jusqu'à quel point, on n'est même pas. Moi, je pense depuis longtemps que Trump n'a aucune chance de gagner, mais on ne sait pas du tout ce qu'il va sortir dans le débat de mercredi, puisqu'il est un peu désespéré, il est dans son
Alors,
coin.
Alors, Jean-Lucien, je voudrais qu'on dise un dernier mot quand même sur la façon dont la presse régionale s'est retournée, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'historique aux États-Unis.
Oui, vous avez tout un tas de journaux dans des États clés, des États légendairement républicains, où ces journaux n'ont jamais pris position pour des candidats démocrates.
Lesquels, par exemple ?
Alors, dans l'Arizona, qui est quand même la patrie de John McCain, l'avant-dernier candidat républicain, dans l'Utah, qui est la patrie de Mitt Romney, qui est le dernier candidat, au Texas même, où je crois que jamais un démocrate n'a dû gagner le Texas. Les journaux les plus importants, alors ne prennent pas toujours position pour Hillary Clinton, mais en tout cas se démarquent très nettement de Donald Trump.
Voilà, et ça c'est un virage historique. Merci beaucoup Jean Le Sieur, on continue, hein, vous et nous avec l'Instant M, de regarder, de passer à la loupe ce traitement médiatique de la campagne américaine. Bonjour Ali Rebbi.
Bonjour Sonette de Villers.
Alors, grand bien vous fasse.
Comment passer un automne et un hiver en pleine forme ? Donnez-nous vos petites astuces pour rester en forme dès l'arrivée des premiers froids. 01 45 24 7000.